Souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent encore ce matin. Que le Seigneur puisse vous bénir. Je crois qu'il a déjà commencé et il veut continuer de le faire. Qu'est-ce que vous diriez, comment est-ce que vous réagiriez si Dieu vous disait « Mene, mene, tekel, upharsis » Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce charabia? Peut-être que c'est ça qu'on dirait. Mais quand on connaît le contexte de Daniel chapitre 5, ça a été dit à un roi, on va dire à l'apogée de sa gloire, et Dieu lui a dit ces paroles, alors qui pour nous, bien sûr, sont compliquées quand elles sont dans l'araméen. Mais quand on voit la signification, Daniel chapitre 5, verset 25, on lira le contexte tout à l'heure, mais voilà ce qu'il est dit. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et il y a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisez, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Et au verset 30, cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué et Darius le Mède s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. La parole de Dieu n'a pas tardé à s'accomplir puisque dans la nuit même, quelques heures seulement après que Daniel est intervenu pour expliquer ce qui s'était passé, la parole de Dieu s'est accomplie. Mais quelle parole terrible d'entendre que malgré toutes ses richesses, cet homme a été trouvé léger dans la balance de Dieu. Je ne sais pas si pour vous c'est quelque chose qui vous interpelle, mais cet homme, il avait tout d'un point de vue humain. Mais devant Dieu, il ne pesait rien. Il n'était qu'un souffle. Alors on va ce matin faire plusieurs voyages dans le temps et dans l'espace aussi. On va faire un bond en avant de 600 ans. On va aller en Israël et on va voir ce que Jésus dit. Luc chapitre 12, verset 15, on va s'apercevoir que cette pensée-là, elle est répétée au travers de l'histoire. Dans la Bible, elle est répétée et jusqu'à nos jours même, cette pensée est répétée pour nous encourager, bien sûr. Luc chapitre 12, verset 15. Quand j'ai lu ce verset, ça m'a tout de suite fait penser au roi Belshazzar. Luc 12, verset 15, Jésus leur dit « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Fût-il dans l'abondance ?» Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte ?»« Voilà, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit « Insensé !» Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi, regardez bien la conclusion du Seigneur Jésus, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. C'est une chose d'être riche sur la terre, et je ne prêche pas contre les riches du tout, la Bible ne fait pas ça, mais la Bible nous invite, quelle que soit notre position, si on est riche ou si on est pauvre, à être en tout cas riche pour Dieu. Ça, c'est abordable pour tout le monde. Un homme, l'homme en question qui est là, il avait préparé plein de choses pour sa retraite, on pourrait dire ça comme ça aujourd'hui, mais sauf que Dieu lui a dit, non, mais ton âme te sera redemandée cette nuit. Et tout ce que tu as préparé, toutes ces richesses que tu as accumulées, à qui elles vont servir? Bien sûr, il y a les descendants, ça sert toujours à nos descendants, mais personnellement, pour ta vie spirituelle, à quoi ça va servir? À rien. Parce que le plus important, ce n'est pas d'être trouvé léger devant Dieu, mais c'est d'être trouvé riche pour Dieu. On va faire encore un bond dans le temps, là, juste 60 ans, et ça va rejoindre tout à fait ce que Ademar nous a présenté tout à l'heure. On va aller dans Apocalypse chapitre 3, verset 17. Tout à l'heure, on a lu le verset 20. Apocalypse chapitre 3, verset 17. On se déplace jusque dans la mer Égée, au large de la Turquie, sur l'île de Patmos. L'apôtre Jean est en train de recevoir une vision de la part de Dieu. Jésus est en train de parler aux églises. et il parle à l'église de Laodicée. Les spécialistes bibliques interprètent l'église de Laodicée comme l'image de l'église de la fin des temps, c'est-à-dire nous. D'accord ? Donc, ce qui est dit dans l'île de Patmos en l'an, presque vers l'an 100 après Jésus-Christ, a une répercussion jusqu'à maintenant. Et on pourrait se déplacer jusqu'à ici et entendre le Seigneur Jésus qui nous parle et qui nous dit ces paroles. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Amen. On n'ose pas dire amen avec des paroles comme ça. Pourtant, c'est la parole de Dieu. Alors, on sait que dans cette église de Laodicée, il y a des fortes mises en garde et reproches de la part du Seigneur, mais il y a des vainqueurs dans cette église de Laodicée. Il y a des gens qui ont triomphé, il y a des gens qui ont réussi à rester fermes, il y a des gens qui ont réussi à tenir bon, à persévérer malgré tout. Et dans toutes les situations difficiles que l'église a traversées, il y aura toujours des vainqueurs, par la grâce de Dieu. Et ce matin, plaise à Dieu que nous soyons des vainqueurs, que nous soyons de ceux qui sont trouvés riches pour Dieu. Au travers de l'histoire, au travers de la Bible, au travers de la parole de Dieu, nous voyons que Dieu répète ce même message. Est-ce que tu vas être trouvé léger dans sa balance ou est-ce que tu vas être trouvé riche pour lui? Voilà la question que je voudrais qu'on étudie ce matin. Comment est-ce qu'on peut être riche pour Dieu? Et comment est-ce qu'on ne peut pas être trouvé léger ou pauvre? On pourrait dire ça aussi, c'est la même chose. Et pour répondre à cette question, on va organiser un combat entre Belshazzar et Belshazzar. Alors ceux qui connaissent la Bible savent que le roi, il s'appelle Belshazzar, et Daniel, il a été surnommé par Nebuchadnezzar, Belshazzar aussi. Donc, il y a un Belshazzar, on va l'appeler le roi léger, et de l'autre côté, on a Belshazzar qui est appelé par Dieu le bien-aimé. Et on va les mettre face à face et voir qu'est-ce que nous enseigne la parole de Dieu. Donc on revient dans Daniel chapitre 5. Ce chapitre est très 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 intéressant et je peux vous assurer que Daniel, le livre de Daniel en général, il pose problème aux historiens. Parce que les historiens, en faisant tous leurs calculs, ils arrivent à déterminer que les dates qui sont dites dans ce livre, ça correspond bien, mais ça les embête. Parce qu'il y a des détails qui sont trop précis qui concernent la suite. Donc ils sont prêts à remettre en question la datation du livre de Daniel, parce qu'ils disent tout ce qu'il a prophétisé, c'est pas possible que ça soit aussi précis, donc il a écrit après. Vous voyez, ils sont des cheveux blancs, les historiens. Mais nous, on sait, parce qu'on a confiance dans la parole de Dieu, que Dieu, quand il dit quelque chose, ça s'accomplit. Sa parole est vraie. Et ce que Daniel a reçu comme révélation, c'est accompli. Et c'est incroyable de le voir. Alors, je ne veux pas rentrer dans les détails ce matin, mais c'est très très intéressant pour quand on aime l'histoire et quand on aime la parole de Dieu. Donc, Belshazzar, est-ce que ce roi qui a été trouvé léger devant Dieu, est-ce qu'il était riche humainement déjà? Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'était un des hommes les plus riches de son temps. Il était à la tête de l'empire de Babylone. Je ne sais pas si vous avez des images dans votre esprit de l'empire de Babylone, mais c'était un empire phénoménal à l'époque. C'était le top niveau de la culture, de la modernité, de l'architecture. Ils ont construit des espèces de pyramides avec des temples au sommet qu'on appelait les ziggourats, qui servaient bien sûr à l'idolâtrie, à servir aux Noé leur dieu, mais c'était des œuvres incroyables du point de vue architecture. C'était à Babylone qu'ont été construits les jardins suspendus qui font partie des sept merveilles du monde de l'Antiquité. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais cet homme, il était à la tête de cet empire-là. Cet homme, il était dans ce contexte. Et on pourrait se dire qu'il a tout pour lui, cet homme. Belshazzar, il est dans un endroit fabuleux, la vue sur le Tigre, il a un superbe loft de 180 mètres carrés, ou plus, j'imagine, des pièces partout. Mais tout ça, devant Dieu, ça ne sert à rien. Parce que c'est léger pour Dieu. Qu'est-ce qui a du poids aux yeux de Dieu et qu'est-ce qui nous appauvrit alors qu'on peut être riche? C'est ça la bonne question. La Bible nous parle qu'il y a un manque de générosité. On peut voir Daniel chapitre 5, donc et le verset 1er, et lire un petit peu cette histoire, ce contexte, pour bien comprendre ce qui se passe. Daniel donc 5, verset 1, « Le roi Belshazzar donna un grand festin assez grand, au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Belshazzar, animé par le vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que Dieu son père que son père, pardon, Nebuchadnezzar, avait enlevé du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et louèrent les dieux d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait, alors le roi changea de couleur. Et ses pensées se troublèrent, les jointures de ses reins se relâchèrent, c'est une expression très polie pour dire qu'il s'est fait pipi dessus, et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, « Quiconque lira cette écriture m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. » Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication, sur quoi le roi fut effrayé, il changea de couleur et ses grands furent consternés. Amen. On voit le cadre de cette histoire, c'est un immense festin. 1000 invités sont là. Est-ce que vous avez déjà eu 1000 invités? Je n'ai jamais participé, parce que les mariages, il y a des centaines de personnes qui sont invitées, mais 1000, j'ai pas eu l'occasion de voir ça. Et on imagine derrière le coût, l'organisation et tout ce que ça entraîne de recevoir 1000 personnes, sachant qu'il n'y a que les hommes qui sont comptés dans les 1000. Il y a leurs épouses en plus, plus tous les esclaves qui sont là et qui servent et qui préparent le repas, etc. On imagine que c'est quelque chose de grandiose, un repas avec 1000 personnes. Cet homme était là en train de dépenser de l'argent. Alors je parlais tout à l'heure de manque de générosité, mais quand la Bible parle de générosité, elle nous dit pas que c'est pas le fait de dépenser de l'argent, mais c'est dépenser de l'argent pour des bonnes causes. C'est ça la générosité. Pourquoi est-ce que cet homme a dépensé de l'argent ? Pour épater la galerie. Vous êtes d'accord? Ça va? Ça vous choque pas la formulation? Mais je pense que c'est la meilleure. Il a montré à tout le monde à quel point il est riche. Et, entre guillemets aussi, pour mettre les gens dans sa poche. Parce que quand on est invité dans la cour du roi, ben on n'a pas envie de le critiquer, le roi. On profite de la bonne nourriture et de tout ce qui va avec. Donc on va rien faire contre le roi. Et cet homme était là dans cette dimension de dépenser son argent, pas auprès de ceux qui en avaient besoin. Sûrement qu'il y avait des pauvres dans l'empire de Babylone. Mais il dépense pas son argent vers les pauvres, il dépense son argent vers les riches. Ça rappelle des choses. Et en tout cas, quand le Seigneur nous invite à être généreux, il nous invite, nous, à prendre soin de celui qui est pauvre. À prendre soin de celui peut-être qui est à l'autre bout du monde, mais qui est en train de mourir de faim à cause de sa foi. Vous savez que quand on étudie l'histoire, les grands empires qui ont jalonné la terre dans les différentes époques ont commencé leur décadence quand ils ont dépensé leurs sous dans des fêtes et dans des orgies et dans des repas somptueux qui étaient faits juste pour se faire du bien, mais pas dans les projets qui étaient pour le bien du peuple. Regardez l'histoire et vous verrez que c'est une réalité. Et la Bible nous montre que c'est encore quelque chose qui est avéré au travers de l'exemple de Belshazzar. Belshazzar manque de générosité et alors qu'il est immensément riche, il est pauvre d'un point de vue spirituel. Qu'est-ce que dit la Bible de la vraie générosité ? Proverbe 19, verset 17 nous dit « Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. Qui lui rendra selon son œuvre ?» Quand je fais le bien envers quelqu'un qui ne peut pas me le rendre, c'est auprès de Dieu qu'il y a une dette. Et c'est Dieu qui va me le rembourser. Est-ce que vous pensez que Dieu, il a les moyens? Le compte en banque de Dieu, il est pas mal, hein? La Bible dit, l'or et l'argent de la terre sont à lui. Donc, imaginez combien ça représente, et vous verrez qu'il vaut mieux avoir la dette, que Dieu ait une dette envers nous dans ce sens-là, plutôt que ce soit quelqu'un qui peut nous rembourser. Et quand j'ai la possibilité, parce que Dieu me fait grâce d'avoir un peu d'abondance, je veux être généreux envers celui qui est pauvre, envers celui qui ne peut pas manger, envers celui qui ne peut pas se vêtir, envers celui qui ne peut pas aller à l'école. Ce matin, je ne parle pas du tout de la dîme. Vous comprenez bien, c'est pas cet esprit-là dont je suis en train de parler, mais je parle de la générosité que l'on peut manifester dans notre vie de tous les jours. Pour être riche pour Dieu, il vaut mieux donner à celui qui est dans le besoin, parce que c'est Dieu qui va nous le rendre. C'est auprès de Dieu que ça se passe. On peut aussi donner pour de mauvaises causes. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, nous dit un autre proverbe. Mais la main des diligents enrichit. Alors ce verset parle de ceux qui sont feignants, hein, pour le dire clairement. Celui qui agit d'une main lâche, ça veut dire celui qui veut pas se fouler. Eh ben, il s'appauvrit, forcément. Parce que si je veux gagner un peu d'argent, il faut que je dépense un peu d'huile de coude. Mais on peut comprendre aussi que c'est dépenser sa richesse dans des choses qui, dans lesquelles je me relâche. Et là, on voit que cet homme, c'est exactement ce qui se passe. Il dépense sa richesse, pas dans des grands projets de resto du cœur qui vont pouvoir nourrir des personnes. Il dépense son argent pour boire du vin et inviter tous les gens qui sont autour de lui à boire du vin et à toutes sortes d'excès qui sont là. Comment est-ce que j'utilise, moi personnellement, c'est la question qu'on se pose ensemble, comment est-ce que nous utilisons notre argent? Est-ce que c'est pour parer à nos excès à nous, ou est-ce que c'est pour faire du bien aux autres? La Bible nous dit que la vraie générosité, en tout cas, c'est pour de bons motifs que je vais dépenser mon argent. Je ne vais pas centrer toutes mes dépenses que sur moi, que sur ce qui m'intéresse à moi. Vous remarquerez que les gens qui ont tendance à dépenser leur argent que pour eux, eh bien, ils en veulent toujours plus. Ils sont jamais satisfaits. Mais ceux qui ont appris à donner et à donner, ben le Seigneur est celui qui renouvelle cet aspect aussi dans leur vie et il leur permet de ne jamais être sur la paille, comme on dit, mais toujours être béni de sa part. Regardez avec moi dans 1 Timothée 6, ce texte, il est important. 1 Timothée 6, parce que là, la plupart sont en train de me dire, moi, je suis pas riche, je suis dans la classe moyenne. Alors, tout à l'heure, je vais vous montrer que vous êtes riche, en fait. Mais là, regardez ce qui est dit aux riches. 1 Timothée 6, verset 18. Recommande-leur, donc aux riches, de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie éternelle. Comment être riche alors qu'on est riche? En faisant avec cette richesse-là de bonnes œuvres, en utilisant notre argent pour de bonnes choses qui vont pouvoir apporter la grâce autour de nous, en usant de générosité, de libéralité. La libéralité, qu'est-ce que c'est? C'est avoir assez de largesse d'esprit pour soutenir des choses qu'on ne soutiendrait pas sinon. De soutenir des causes qui ne sont pas centrées sur nous-mêmes, tout simplement. La libéralité, c'est de se tourner vers l'autre et vers son besoin. Alors, je vous entends penser, tout ça c'est très joli, mais moi j'ai pas beaucoup d'argent sur mon compte. Donc je suis pas riche, je suis dans la classe moyenne. Alors, je vous invite à aller sur le site globalrichlist.com, c'est en anglais. Et c'est intéressant ce site parce que il vous demande de taper vos revenus annuels par foyer. Et une fois que vous avez tapé le montant en euros, eh ben, il vous donne... dans quel pourcentage de riches vous êtes? J'ai testé avec le SMIG en un an. 1170 euros net par mois. C'est ça à peu près le SMIC. Eh bien, ceux qui gagnent 1170 euros par mois, ils sont dans les 7% les plus riches de la planète. Le problème, c'est qu'on se compare souvent avec la France, et là, c'est d'autres échelles de valeur. Mais quand on regarde à l'échelle du monde, quand on gagne le SMIC en France, on est dans les 7% les plus riches. J'ai pris par curiosité, ceux qui gagnent 1800 euros par mois de le foyer sont dans les 2% les plus riches. Ceux qui gagnent 2400 euros par mois, ils sont dans les 1% les plus riches. Vous voyez qu'il faut pas aller très très haut, hein, pour être concerné. Donc, on est riche. Et la façon dont on va gérer notre argent peut nous appauvrir ou nous enrichir devant Dieu, suivant comment on va le faire. Et c'est important de réaliser que même cet aspect-là, dont on n'aime pas trop parler en France parce qu'on est près de nos sous, mais cet aspect-là est quelque chose qui révèle notre foi aussi. Comment est-ce que j'utilise mon argent? Non, je l'utilise que pour moi, que pour ma famille, que pour mes biens à moi, que pour me faire plaisir. Non, j'ai compris que Dieu veut aussi m'utiliser pour bénir celui qui est à côté de moi, pour bénir mon frère ou ma sœur. J'ai une lettre, je voulais la lire, mais je l'ai oubliée, elle est derrière dans mon bureau. Une lettre de notre ami Michel qui nous a écrit un petit mot pour nous remercier. Vous savez qu'on a fait un tronc pour la soutenir dans son déménagement, parce que auparavant avec elle on a fait toutes sortes de démarches pour auprès de la CAF, auprès de la Sécu, auprès de la caisse de retraite pour savoir s'ils faisaient des aides pour les personnes qui n'ont pas les moyens. Et ben il y a rien qui existe. Si on déménage, il faut se débrouiller soi-même. Donc on a eu à cœur de l'aider. Et je crois que ça fait partie de la générosité. Donc au travers de cette lettre, je pourrais vous la faire lire tout à l'heure, ceux qui le veulent. Elle nous exprime ses remerciements. Ça c'est quelque chose qui fait qu'on est riche devant Dieu. C'est notre petite participation, mais devant Dieu, ça a un poids éternel de gloire, parce que on apprend à bénir celui qui est à côté de nous. Elle est bien arrivée, soit dit en passant. Hein. Une autre chose que ce roi a fait et qu'il a appauvri, c'est qu'il n'a pas appris du passé. Vous savez que les meilleures choses, les meilleures leçons qu'on peut tirer sont celles que l'on apprend du passé. Il y a quelqu'un qui a dit cette phrase très, très intéressante. Un homme sage apprend par l'expérience des autres. Un homme ordinaire apprend par sa propre expérience. Et un imbécile, il apprend rien. Ni et par personne. Je ne sais pas dans quelle catégorie vous êtes, mais ce que je vois, c'est que ce roi, ben, il est peut-être dans la dernière. Son grand-père, Nebuchadnezzar, a vécu un temps particulier où il a été... il a perdu le sens des choses parce qu'il s'est enorgueilli, il avait un pouvoir extrême, il s'est enorgueilli, il a dit tout ça c'est grâce à moi, grâce à ma force, et Dieu l'a fait passer du trône jusque dans les pâturages, il était en train de brouter l'herbe à côté des ânes parce qu'il avait négligé de rendre gloire à Dieu, et le jour où il a accepté de le faire, mais tout lui a été rendu. Et ça c'était l'exemple, l'histoire de la famille quand même, et ce jeune homme qui est là, ce roi, au lieu de considérer ce qui s'est passé pour son grand-père, il a continué de s'enorgueillir et de s'élever, alors que lui ne faisait que récolter ce que son grand-père avait semé quand même. C'est son grand-père qui a fait les guerres, les victoires, et qui a remporté tout ça, qui a déporté le peuple qui était à Juda pour l'amener à Babylone. C'est son grand-père qui a vécu tout ça. Lui, il faisait que vivre sur la fortune des parents. Et pourtant, il s'enorgueillit. Et il n'a pas choisi d'apprendre du passé. Regardez le verset 17. Qui nous l'explique bien, c'est Daniel qui lui répond, hein, parce qu'il a été appelé entre-temps. « Garde tes dons, accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Le roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. » Le roi faisait mourir ce qu'il voulait et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ce qu'il voulait et il abaissait ce qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. C'est ce que je viens de raconter. Il fut chassé au milieu des enfants des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes. Ça, c'est dangereux que de s'enorgueillir et de ne pas reconnaître que Dieu est aux commandes. Sa demeure fut avec les ânes sauvages, et on lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel. Il avait un palais à Babylone incroyable et il était SDF. Jusqu'à ce qu'il reconnût que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes. Amen. Un roi païen qui a reconnu à un moment donné, parce qu'il a compris ce qui se passait dans sa vie, que Dieu était aux commandes. Et je peux vous dire, on peut aller au chapitre 4, entendre les paroles de ce roi. La fin du chapitre 4, le verset 37, regardez ce qu'il dit. Quand ça s'est passé et qu'il est revenu au pouvoir. « Moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. » Il sait de quoi il parle. Il sait ce que ça veut dire être abaissé. Mais quel dommage que Belshazzar, alors qu'il a cet exemple flagrant devant lui, au lieu de considérer cela et de dire « c'est vrai que j'ai le pouvoir, c'est vrai que j'ai la richesse, c'est vrai que j'ai un empire, mais je sais qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. » Au lieu de considérer cela, il n'a pas voulu considérer le passé et il a continué de s'enorgueillir. Je peux vous dire qu'on n'apprend jamais autant de nos erreurs, mais c'est intéressant aussi quand même d'apprendre des erreurs des autres. Ça fait gagner du temps quand on apprend des erreurs des autres. Et c'est tellement intéressant de le faire. Le proverbe nous dit « Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or ?» s'il y a quelque chose qui donne du poids à notre foi, s'il y a quelque chose qui est un vrai trésor qui nous rend riches pour Dieu, c'est d'acquérir de la sagesse, du bon sens spirituel. Parce que ça, ça nous permet d'avancer dans la vie et de grandir et de progresser. Combien je suis triste quand je vois parfois des gens qui ne progressent pas. Alors, je suis pas placé pour juger qui que ce soit, mais parfois on voit des personnes, pendant des années, elles tournent en rond dans l'église. Dieu les appelle à faire certaines choses, Dieu place des personnes autour pour leur donner des conseils, et elles refusent tout. Et elles restent dans leur bourbier, et elles n'avancent pas. Alors que quand on choisit de considérer les conseils, quand on choisit d'écouter la sagesse de Dieu, le Seigneur nous invite à grandir systématiquement. Et au verset 22, Daniel dit à cet homme, « Toi, Belshazzar, tu n'as pas humilié ton cœur. » Voilà quelque chose qui appauvrit un homme, quelqu'un qui n'est pas capable de s'humilier devant Dieu. Il sera systématiquement pauvre devant Dieu. Il sera léger dans la balance de Dieu. Parce que ceux qui ont du prix aux yeux de Dieu, ce sont les personnes qui s'humilient devant lui. Ce sont les personnes qui sont capables de fléchir le genou et de dire, « Seigneur, c'est vrai, j'ai fait quelque chose de mal, mais je te demande pardon. » Oh, quand je lis cette histoire pour la première fois, et que j'entends Daniel qui est en train de donner l'explication, au verset 29, il est dit « Aussitôt Belshazzar !» Et là, j'imaginais, moi, « Aussitôt Belshazzar se repentit. » Aussitôt Belshazzar se fléchit le genou devant Dieu et dit « Seigneur, je te demande pardon, pitié !» Mais non, c'est pas ça qui s'est passé. Aussitôt Belshazzar donna des ordres pour qu'on donne de l'argent à Daniel. « Tu m'as rendu service, tiens, je te paye. » Mais Dieu, ça m'intéresse pas. Et quand on voit la suite, c'est dramatique. La nuit même, il est mort, le gars. Hein. Il a été tué. Est-ce que s'il s'était repenti, comme je viens de le dire, est-ce que Dieu l'aurait pas écouté? Moi, j'ai un Dieu qui est comme ça. Quand on se repent de tout son cœur, même si on mérite tout le jugement du monde, quand on se repent devant Dieu, le Seigneur nous fait grâce. Mais c'est pas ce qu'il a fait cet homme. Il s'est pas humilié. Et il est resté sous le jugement. Et puis, ne pas respecter ce que Dieu respecte, c'est quelque chose qui appauvrit le cœur d'un homme. Babylone, avec sa ziggourate, sa pyramide, c'était un haut lieu de magie et d'occultisme. La preuve, c'est que quand il est embêté par l'histoire, qu'il comprend pas, il fait appeler qui ? Les astrologues, les chaldéens, les devins, les magiciens. Il appelle tout le monde occulte à venir l'encourager. Or, aujourd'hui, des fois, on a l'impression que c'est loin tout cet aspect-là. On est dans une société française aujourd'hui où beaucoup ont recours à l'occultisme, même si c'est dit sous d'autres noms, parce que ça fait peur ce mot occultisme. Mais c'est dit sous d'autres mots, le voyant, magnétiseur, docteur en pensée, transcendantal. Il y a plein de termes qui sont là pour essayer de rassurer, mais la Bible, elle est claire, tout ça, c'est l'occultisme. Et c'est pas de cette manière-là qu'on s'enrichit devant Dieu. Tout ça, ce sont des choses qui appauvrissent. Quand on considère l'exemple de personnes, j'ai des exemples dans ma famille de personnes qui sont allées voir des voyants et qui, à la suite de ça, ont vécu malédiction sur malédiction. Toutes les choses mauvaises que la voyante a dites se sont réalisées. Toutes les choses bonnes qu'elle a dites, elles ne se sont pas réalisées. Parce que c'est la malédiction qui est prononcée dans de telles circonstances. Frères et sœurs, si nous sommes dans les tourments, et vous qui découvrez la foi peut-être, si vous êtes dans les tourments, n'allez pas voir ce genre de personnes. Tournez-vous vers Dieu. Dieu est la solution. Et Dieu est plus grand que celui qui est dans le monde et que tous ses sbires, parce qu'il est le Tout-Puissant. Cet homme n'a pas respecté ce que Dieu respecte. Dieu, il est dit qu'il a en abomination l'occultisme, de manière générale. Et lui, il fait venir les astrologues, mais vous voyez le résultat. Ils ne purent pas lire l'Écriture. Ils étaient bloqués. Et le résultat, c'est que cet homme, il est resté dans la peur. Souvent, les gens qui vont voir les voyants, ils commencent à développer de la peur. J'ai beaucoup d'expérience par rapport à ça, mais j'ai pas le temps de vous les raconter. C'est quelque chose qui est réel. Quand le Seigneur agit pour nous, lui, c'est la paix qu'il nous donne. Et c'est tellement plus intéressant. Il n'a pas choisi d'honorer ce que Dieu honore. Il a apporté les vases d'or qui servaient dans le temple pour les sacrifices, pour toutes sortes de pratiques qui étaient dans le temple pour honorer Dieu. Et il s'en est servi pour boire, pour s'enivrer. Sans considérer ce que cela représentait. Et sans considérer l'abomination que ça provoquait aussi pour tous les juifs. Et le résultat, c'est que le jugement est venu sur lui. Qu'est-ce que nous faisons de ce qui est précieux aux yeux de Dieu? Il y a des choses qui sont précieuses aux yeux de Dieu. Ben, l'Église, elle est précieuse. Qu'est-ce que nous faisons de l'Église? Le frère et la sœur qui est à côté de vous, il est précieux aux yeux de Dieu. Qu'est-ce que vous faites pour lui? Le Seigneur ne l'oublie pas, mais nous. Et puis on pourrait multiplier les exemples. Les familles, est-ce que les familles ne sont pas précieuses aux yeux de Dieu? Qu'est-ce que je fais pour ma famille? Qu'est-ce que je fais pour mes enfants? Pour mon épouse? Et qu'est-ce que mon épouse fait pour moi? Cet homme a choisi de déshonorer ce qui plaît à Dieu. Et il est bien précisé. Daniel lui dit, tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point, qui ne savent rien. Tu es resté dans l'idolâtrie. Je regardais quelque chose qui m'a amusé. J'ai trouvé un dieu d'or, d'argent, de fer, d'aluminium et de carbone. Je ne l'ai pas là. Bon, il y a un exemple. Et en plus petit, le portable. Portable, il y a du fer, il y a de l'or, il y a de l'argent, il y a de l'aluminium, il y a du carbone. Et je trouvais que cet exemple très très intéressant. Non pas que tous les portables sont des dieux, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais on peut se laisser piéger par l'utilisation du portable et des réseaux sociaux en faisant un dieu. On parlait avec cette semaine avec quelqu'un qui me disait, une jeune fille, pour faire ses devoirs, elle a Netflix à côté, elle a son téléphone avec les réseaux sociaux et elle est en train de faire ses devoirs. Elle comprend pas pourquoi ça marche pas. Oui, mais il y a un réel manque de vision. Et les jeunes, je vous interpelle ce matin à ne pas utiliser les écrans comme un dieu, mais à ce que ce soit vous qui maîtrisez ces choses et à l'utiliser pour la gloire de Dieu. Parce que c'est pas les mêmes dieux, c'est pas les statues que l'on a aujourd'hui, mais ce sont ces choses-là. Il y a un autre dieu que j'ai trouvé qui est en cuir, celui-là, c'est le ballon rond. Hein ? On peut vite en faire un dieu aussi. Ou le ballon ovale, d'ailleurs, en ce moment, c'est plutôt le ballon ovale. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Cherchons pas loin les dieux. Ils sont tout autour de nous, si on les utilise mal, les objets qui sont autour de nous. Mais par la grâce de Dieu, Dieu veut nous aider à être des personnes riches. Alors, rapidement, je vais terminer avec Belshazzar, le bien-aimé, c'est-à-dire Daniel. Qu'est-ce que Daniel a fait et qui fait qu'il a été trouvé riche devant Dieu. Dans le livre de Daniel, je ne sais plus quel chapitre, si c'est le 11 ou le 12, il est dit qu'il est appelé par Dieu le bien-aimé. Est-ce que vous aimeriez que Dieu vous appelle bien-aimé? Belshazzar, l'autre, le roi, il a été appelé léger. Mais lui, Dieu lui dit que tu es un bien-aimé. Et c'est pas parce que je dis que je suis riche devant Dieu que je le suis vraiment. Souvenez-vous d'Apocalypse. Mais qu'est-ce que Dieu dit de moi? Dans Apocalypse, les gens disaient « Moi, je suis riche ». Et Dieu dit « Non, tu es pauvre. Tu es aveugle, tu es nu, spirituellement. » Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Comment est-ce que je peux donner du poids à ma foi? Comment est-ce que je peux être riche pour Dieu? Remarquez déjà que quand il y a eu un problème dans ce moment-là et que personne n'a trouvé la solution, à qui on a fait appel? À qui on a pensé à ce moment-là? Daniel. Pourquoi? Parce qu'il avait une réputation excellente. Daniel avait une bonne réputation au point que la reine mère, elle est venue, elle arrivait, elle a dit « Non, mais souviens-toi, il y a un homme dans ton royaume qui peut faire quelque chose, qui va pouvoir te donner la réponse. Il est capable de résoudre les affaires les plus difficiles. » Proverbe 22 nous dit « La réputation est préférable à de grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. » La réputation. Est-ce que vous avez bonne réputation? Est-ce que vous avez, on pourrait le dire autrement, un bon témoignage? Là, c'est chacun qui peut y répondre. Et puis, c'est surtout ceux qui sont autour qui peuvent expérimenter ce témoignage. Vérifier, confirmer que c'est quelque chose de vrai. Et si c'est pas le cas, ben dire « Seigneur, donne-moi d'avoir un bon témoignage parce que c'est ça qui permet que devant toi, ma foi soit conséquente. » Cet homme est capable aussi, pas de compter sur les richesses du roi, mais de compter sur la faveur de Dieu. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous comptez que sur vos richesses ou est-ce que vous dites « Seigneur, j'ai surtout besoin de toi dans ma vie ». Vous avez vu, l'autre, il lui dit « Allez, tu me résous ça et je te donne de l'argent, tu vas être l'homme le plus puissant ». Il lui dit ça, mais quelques heures après, il est mort. Donc on ne sait même pas si ça s'est mis en place, l'histoire. Les promesses des hommes sont tellement éphémères. Mais Dieu, il ne s'appuie pas sur l'homme, il lui dit « Non, garde ton argent pour d'autres. Moi, je crois en un Dieu vivant ». Et à cause de son intégrité, ben Dieu l'a honoré et a permis que le roi suivant lui donne ce que l'autre avait promis. Parce qu'il est sage, cet homme, il s'est confié en lui. Pourtant, quand on regarde Daniel, nous on pense souvent au jeune homme Daniel qui ne s'est pas souillé, vous savez, quand il a dû manger les choses qui étaient consacrées aux idoles, il a refusé de le faire, il a mangé que des légumes. Il ne s'est pas souillé, il était tout jeune à ce moment-là. Mais quand on parle maintenant de Daniel au chapitre 5, vous savez qu'il y a 60 ans au moins qui se sont passés. Ça veut dire qu'il est vieux. Il est âgé. Bon, peut-être qu'il a plus beaucoup de santé. Il avait 3 amis. Vous vous souvenez des noms des amis? Je sais plus si je les ai. Alors ça, c'est les noms païens. Anania et Azaria. Azaria. Et Mishaël ou Michael, un joli prénom, soit dit en passant. Je préfère ça à Meshach. En tout cas, les 3 amis qui ont vécu de belles choses aussi, qui ont résisté au feu de la fournaise, on n'en entend pas parler. Est-ce qu'ils sont ailleurs? Est-ce qu'ils sont morts? Peut-être que Daniel se retrouve seul. Daniel est seul, vieux. Daniel n'a peut-être pas beaucoup de pouvoir comme il en avait avant. Il était le chef de la province de Babylone quand même. Là, on voit qu'il est sur la touche un peu. Mais il sait ce qui vaut la peine devant Dieu. Il a confiance dans son Dieu. Il a la foi en Dieu. Et ça, ça a de la valeur. Une valeur qui ne peut pas se copier. Il a la sagesse de faire appel à Dieu quand ça va pas. Souvent les gens disent « Ah, c'est cet homme qui a la solution !» Mais vous savez comment lui il réagit? On entend aujourd'hui des fois des prophètes qui disent, enfin des pseudo-prophètes qui disent « Moi, je suis un homme de Dieu, je suis le prophète que Dieu a envoyé !» Calme-toi, ça, faut pas parler comme ça. C'est Dieu qui nous appelle ainsi si c'est la réalité. Quand Daniel en fait appel à lui, vous savez comment il parle? Il dit « Je connais le Dieu qui révèle les secrets. » Il dit pas « C'est moi qui vais vous dire !» J'ai une relation avec un Dieu qui connaît tout. La vraie sagesse, c'est d'avoir une relation avec Dieu qui connaît tout. Parce que nous, on ne connaît pas grand-chose. Vous êtes d'accord? La vraie sagesse, c'est de veiller et d'entretenir cette relation pour que de plus en plus, on comprenne les plans, les visions, les projets de Dieu et que, au travers de nous, le Seigneur nous utilise pour la bénédiction. Et ce qui donne de la valeur à cet homme devant Dieu, c'est son honnêteté. Il a une parole difficile à dire à un roi puissant, le roi le plus puissant de l'époque. Et il dit pas, bon, je verrai plus tard. Non, non, il lui dit la vérité en face. Ton royaume va être enlevé et divisé ce soir même. Et c'est ce qui s'est passé. Qui aurait osé le faire? Franchement, en théorie, on va tous lever la main, mais en réalité, qui aurait osé le faire? C'est pas facile, hein? Sauf quand on a une conviction qui vient de la part de Dieu et qu'on sait qu'il faut le dire. Et peut-être que la personne en entendant cela va changer. Ça n'a pas été le cas. Mais cet homme, Daniel, est honnête. Il parle encore une fois avec vérité. Et il ne se laisse pas arrêter par les apparences. Souvent, on se laisse tromper par les apparences. Souvent, on se laisse tromper par ce que nous voyons. Mais le Seigneur est celui qui veut nous montrer qu'il y a quelque chose de plus. Que nous soyons de ceux qui disent les choses avec vérité. Que nous soyons de ceux qui sont capables de reprendre avec douceur, peut-être celui qui s'écarte, afin de le ramener sur le chemin qui conduit à la vie. Je voudrais terminer avec ce verset. Paul qui dit aux Corinthiens, « Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. » Jésus ne nous dit pas, « Il faut que tu t'appauvrisses physiquement, pour être riche, mais il nous dit, regarde ce que j'ai fait moi. Jésus s'est appauvri, il était dans le ciel de gloire. Il est descendu sur la terre comme un homme, et même un serviteur, un esclave, jusqu'à donner sa vie à la croix, afin que par sa pauvreté, nous soyons riches devant Dieu. Si vous voulez être riche ce matin, qui veut être riche? J'ai un secret de richesse, je vais vous le dire si vous levez la main. Bon, il n'y en a que 2 qui veulent être riches. Les autres, vous êtes très très modérés. Le meilleur moyen d'être riche ce matin, c'est de laisser Jésus rentrer dans votre cœur. C'est ce qu'il a dit à Démarre tout à l'heure. Jésus tape à la porte. Je crois que je suis riche, mais en fait, je suis pauvre. Jésus est dehors. Non, non, je veux ouvrir en grand la porte et je veux que Jésus pénètre parce que c'est ça, le vrai trésor. Et ça dépend pas de mon compte en banque. Ça dépend pas de mes possessions. Ça dépend de ma relation avec Dieu. Comment est votre relation avec Dieu ce matin? Est-ce que si Dieu vous pèse dans sa balance ce matin, il va dire que vous êtes léger? Ou est-ce qu'il va dire tu es riche pour moi et je vais te bénir? Amen. Fermons les yeux quelques instants et prions le Seigneur. Et que son Saint-Esprit puisse rappeler ses paroles dans nos cœurs pour voir où nous en sommes devant lui. Seigneur éternel, nous bénissons ton nom parce que ta parole est vivante et vibrante, ta parole. Elle est puissante. Elle fait, Seigneur, ce que les hommes même ne peuvent pas faire. Ton esprit est là aussi et il convainc les cœurs. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit. Merci pour ton amour aussi, Seigneur. Qui transparaît, si tu nous envoies, Seigneur, ces messages, jusque dans notre époque, qui ont traversé le temps, dans tous ces différents endroits et pays de ce monde, jusqu'à venir ici à Moissac, c'est parce que tu nous aimes, c'est parce que tu ne veux pas que nous soyons pauvres devant toi, mais tu veux que nous soyons riches pour Dieu. Seigneur, c'est ce que nous désirons. Garde-nous de nous appauvrir spirituellement. Garde-nous, Seigneur, d'être légers dans ta balance. Aide-nous à prendre position pour toi, à faire les actions, Seigneur, qui vont contribuer à ce que nos vies te plaisent et que ta faveur soit sur nous. Ô Seigneur éternel, donne-nous d'avoir cette bonne réputation, donne-nous d'avoir ce bon témoignage. Et s'il y a eu des erreurs dans le passé, que par la repentance, elles soient effacées, ces erreurs, Seigneur. Merci pour ta grâce infinie que tu veux encore répandre dans nos cœurs maintenant, Seigneur éternel. Que ta parole soit gravée sur nous. Tu connais, Seigneur, les difficultés de ceux qui passent par l'épreuve. Et tu es le Dieu qui veut leur montrer que quand on s'humilie devant toi, tu élèves la personne. Celui qui s'abaisse sera élevé, Seigneur. Celui qui est abaissé dans l'épreuve par la difficulté va être élevé de la part de Dieu. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Que ton nom soit béni. Amen.